Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sécha sur la paracha de Kitissa dans le Chelek Tetzain. On va partager l'écran. Voilà, donc le rabbi nous dit la chose suivante. Le pasuk, la tzivouya, la siyat, shemen, la meshcha, shu parashatenu. Le pasuk, dans lequel, dans le psuké, dans les psukim, sur lequel on nous parle du commandement de faire donc l'huile pour oindre les kelim et les kohanim, etc. Après nous avoir donné tous les détails des épices qui vont être nécessaires pour faire cette huile-là, Shemen HaMishra, pour la bonne odeur et le goût qu'il va y avoir. Ensuite, donc, le pasuk de Mar Bekato, le pasuk de la chose suivante. Shemen Zayit Hin, l'huile d'olive. Donc, il y a tous les ingrédients dans cette huile-là pour le Shemen HaMishra. Bien sûr, l'huile d'olive, il faut un Hin. Hin, c'est une mesure talmudique. Ce qui correspond à Rashi va nous dire, mais c'est à peu près un peu plus que 6 litres d'huile. Donc, Rashi etik atevat hin, Rashi copie ces mots-là de hin, ou Piresh nous explique. Yud bet login, c'est 12 log. Venir le kubo chachme Israël, yan machloket parmi les sages juifs, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit la chose suivante. Bo shalko itaikarin, dans cette huile-là, on a cuit les racines, et les plantes, dont on se servait. Ça, c'est ce que Rabbi Meir dit. Amar lo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Rabbi Meir. Alors, la souche et akarin et non sibek. Rabbi Yehuda dit à Rabbi Meir, il n'y avait même pas assez d'huile pour pouvoir couvrir, si on peut dire, toutes ces plantes et toutes ces racines qui étaient là. Donc, ce n'est pas ce qu'il faisait, parce que tout aurait pu être absorbé, comme on va voir, et il n'y aurait plus d'huile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Shaoum Bamaï, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trempé toutes les racines, etc., dans de l'eau. Shelo Yivlaou et Hashemen, afin qu'ils soient remplis d'eau et qu'ils n'absorbent pas l'huile. Vacharkach, après, et Tzifalem Hashemen, ensuite, ils ont mis l'huile sur ces ingrédients-là. Ad Shekalat Areach, jusqu'à qu'ils ont absorbé l'odeur de ces ingrédients-là. Ensuite, ils ont récupéré l'huile de ces racines-là. Donc, d'après Rabbi Yehuda, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont donc mis ces plantes dans de l'eau. Une fois qu'ils étaient remplis d'eau, ils n'allaient plus absorber l'huile. Ils ont mis de l'huile par-dessus. L'huile absorbait l'odeur de ces ingrédients-là. Et à ce moment-là, ensuite, donc l'huile a pris cette odeur-là, mais c'était pas. Pardon, s'ils n'avaient pas mis ça dedans, l'huile aurait été absorbée à l'intérieur de ses racines, aurait disparu. Tzerchlavin, donc ça c'est ce que Rashi nous dit. Tzerchlavin, on a besoin de comprendre. D'accord, chez Rashi, le chalek shnei nanim shonim shippur shtevachat le shnei dibonim fadim. Rashi, normalement, fonctionne de la manière suivante. Quand il y a deux explications, deux idées, c'est pas une explication sur le mot, mais quand il y a deux idées sur le même mot, et généralement, normalement, on les met dans deux diboramatriles séparés. Quand il y a deux concepts qui sont complètement séparés, c'est deux diboramatriles dans Rashi. Imken, dans ce cas-là. Lama tsiref kan Rashi shnei nemshim. Pourquoi est-ce que Rashi a mis deux choses en même temps qui n'ont rien à voir? Aleph midat hashemen, la quantité d'huile, qui sont yud bet lugin, ahin. Et deuxièmement, ofen asiyat shemen hamishra, la manière dont l'huile a été préparée, qui est. Il n'a rien à voir avec la quantité. Donc Rashi nous explique Hin, qui est la quantité. Il aurait donc nous expliquer Hin, c'est l'équivalent de 12 login. Et ensuite, dans un autre diboramatril, Hin, ou Hin Shemen, quelle que soit la manière. Et là, nous expliquer comment est-ce qu'on a fait le Shemen HaMishra. Im Bo Shalku, est-ce qu'on a cuit ces plantes-là dans l'huile? O Shetif Alem HaShem, ou bien qu'on les a couvertes d'huile, donc l'eau, etc., tout le processus de Rabbi Yehuda. Donc, pourquoi est-ce qu'un chef fait tout ça dans un seul dibourg à matrice? Mais il faut être caché en particulier un problème. Aleph le shono benyan hacheni, la manière dont Rashi écrit ça dans le deuxième concept, c'est-à-dire la manière dont on a préparé l'huile, ve nichle kubochul, et bvava mosif, et yan machloket. C'est-à-dire que c'est la continuation, clairement c'est une continuation. Bet, ma shehidgish a machloket hibo behin hachemen, lo vid dvarav bo shalku. Donc, Rashi vient nous souligner le fait qu'il y a une machloket. Il y a une machloket dans ça. Dans ça, c'est quoi? C'est le hin shemen, dans l'huile. Et il nous rappelle, il n'a pas expliqué, il n'a pas éliminé les mots, Boshalkud, on a cuit, si on peut dire, de sang dedans, Kipirush Alvasita, un mot Pasuk Shlachav, qui vient dans le mot d'après, c'est-à-dire dans le Pasuk d'après, on a justement, on parle de la préparation, Vasita, et tu feras. Rashi ne nous a pas amené l'explication comment c'était fait dans le Dibur HaMatril, Vasita, il nous ramène l'explication de comment c'était fait dans le Dibur HaMatril qui nous parle de la quantité d'huile. Donc, quel rapport ? Donc, la question du rabbi, c'est toute cette histoire de la préparation n'a pas sa place ici dans ce Dibur HaMatril. D'ailleurs, ça a sa place plus tard dans le Pasuk Vasita. Et Rashi le met ici. Rashi met deux choses dans le même point et met un vav pour les mettre ensemble, pour les associer ensemble. Pourquoi ? Qu'est-ce que Rashi veut dire ? Et je garde le tsen kamad yokim et la chan Rashi. Il y a d'autres détails aussi dans le mot de Rashi. Aleph, les filles chevilles, j'étais à derrière chez Rabbi Meir Yuda. Avant que Rashi nous ramène l'opinion de Rabbi Yuda et Rabbi Meir, il dit Rashi ve katav nechlekou bo chachmei Israël. Il nous met cette introduction en disant Yen machloket, sur cette idée-là, parmi les chachamim d'Israël, parmi les chachamim juifs. Ine, bish la mamash ekdim klaout shesh benyan ze blokta. On peut comprendre pourquoi Rashi nous dit qu'il y a machloket. Pourquoi ? Parce qu'on a expliqué ça plusieurs fois, nous dit le rabbi. Quand Rashi nous dit qu'il y a une machloket parmi les chachamim sur le pshat, c'est pour nous dire que les deux explications que Rashi va ramener sont égales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si il n'y avait pas cette traduction, qu'il y a une machloket parmi les chachamim, on aurait pu penser, ce qui est normalement la manière dont Rashi opère, c'est que le premier pirouche, c'est le premier explication, c'est-à-dire c'est le premier dans le sens où c'est l'explication la plus proche, la plus vraie, disons. Karov yoter d'akosh et pirouche Rashi, plus proche de l'explication de Rashi donc dans le Derchapshat, et le deuxième pirouche est un peu plus éloigné. Donc Rashi avait besoin de lui expliquer, de lui dire non. C'est un machloket, les deux sont équivalents, les deux sont égaux. Je ne ramène pas un avant l'autre parce qu'un est mieux que l'autre, je ramène un avant l'autre parce que je n'ai pas le choix, on ne peut pas écrire deux choses à la fois. Mais sachez que les deux explications sont équivalentes. Donc ça, que Rashi nous dise qu'il y a un machloket, il n'y a pas de souci, on comprend. Mais qu'est-ce que Rashi veut dire, il y a un machloket parmi les chachamim d'Israël, les chachamim d'Israël. Ça veut dire que quoi il aurait pu, on aurait pu penser que c'est le chachamim des non-juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas marqué v'lokatav nechloku bo rabotenu? Nos rabotenu, nos sages, ne sont pas d'accord sur le pirouche. Quand il s'est posé des choses comme ça, que d'accord comme Rashi le fait plusieurs fois, où Rashi nous dit nechloku bo chachamim rabotenu, etc. Donc pourquoi est-ce que Rashi nous a amené nechloku bo chachmi Israël? Qu'est-ce que c'est que ces mots-là, chachmi Israël? Qu'est-ce que ça veut expliquer? Qu'est-ce que ça veut exclure? Quel est le message? Pourquoi est-ce que Rashi ramène les noms de Rabbi Meir Rabbi Yuda? Rashi maskir shmo shel ha'man d'amar rak b'makom shel dezit Yosef pirou b'firusho. On le sait, ça a été expliqué plusieurs fois par le Rabbi, quand Rashi ramène le nom des auteurs d'une opinion, c'est absolument pour nous expliquer, pour rajouter quelque chose dans l'explication. Quelque chose qu'on n'aurait pas compris sans la mention des noms. Gimel, Binyaneinu, chez nous, on a encore plus grand problème. Quand Rashi ramène les noms de Rabbi Meir et Rabbi Yuda, il y a un problème avec ça. Pourquoi ? Bevavli, dans la Gemara, dans le Bavli, Hagersaï, Sholkimbo et Taïkarim, divrei Rabbi Yuda. La Gersa, c'est que, d'après Rabbi Yuda, on cuit les racines dans ça. Rabbi Yossi Omer, Shorin et Taïkarim, et Rabbi Yossi nous dit qu'on. Donc, c'est un nouveau nom, c'est Rabbi Yossi. Qu'on met, donc on trempe ses racines, ses plantes dans de l'eau, Matif Alem Shemen, et on met de l'huile ensuite après, et ensuite ça va absorber l'odeur et le goût de ces encens, de ces plantes-là. Donc ça, c'est la Gersa dans le Bavli. La Chine a 4 Gersa de Yerushalmi. La Chine n'a pas mis la Gersa du Bavli, il ramène la Gersa du Yerushalmi. Chez Rabbi Meir ou Omer Boshalko Taken, ou tout d'un coup c'est Rabbi Meir qui remplace Rabbi Yuda. Et Rabbi Meir, maintenant, c'est l'opinion qu'on a cuit tout ça ensemble. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, bien que dans le Bavli, il y a Rabbi Yuda, effectivement, mais Rabbi Yuda a une autre opinion dans le Bavli. Et dans le Yerushalmi, c'est marqué, effectivement, Rabbi Yuda nous dit, Shéroum, Mamaim, on les a trempés dans de l'eau. Donc, Rashi prend une Gersa qui est complètement différente. Dans l'Ara 9, le Rabbi nous dit la chose suivante. L'Ara 7, je m'excuse. Le Chora. Mashma de Matsar Rashi avec ça du Bavli. Le Chora, on peut dire que Rashi a trouvé cette guerre dans le Bavli. Pourquoi le Rami va nous ramener que les mots dont Rashi se sert sont plus proches du Bavli que du Roshami? Parce que Bavli et Roshami changent la phrase, la manière dont s'exprimer. Donc, apparemment, c'est que Rashi avait une autre Gersa dans le Bavli au niveau des noms. Mais, nous dit le Rashi, même si c'était la Gersa que Rashi avait dans sa Gemara dans le Bavli, mais pourquoi est-ce que Rashi a choisi cette Gersa-là, qui est une Gersa un peu rare, alors que dans d'autres endroits, dans le chasse, on a la Gersa comme elle est marquée dans le Bavli normal, comme on a. Donc pourquoi est-ce que Rashi aurait choisi une Gersa rare, unique et différente des autres endroits dans la Gemara? Donc en tout cas, Rashi a choisi une Gersa problématique. On retourne dans le texte. Et ta Shela et Shonanal. La première question. On aurait pu répondre simplement. La première question, c'était pourquoi est-ce que Rashi a mis les deux choses dans le même Dibur HaMatril, alors qu'apparemment, c'est deux idées complètement différentes, et donc Rashi met ça dans des Dibur HaMatril différents. Donc, on peut répondre. Étant donné que Rashi nous expliquait qu'il n'y avait que 12 logs d'huile, c'est-à-dire pour nous un peu plus que 6 litres, au lac au chien, maintenant on a un problème. Un problème qui se réveiller parce qu'on a compris, maintenant on voit la quantité d'huile dont on se sert. Et donc, à partir du moment où on parle de quantité, on a un problème. C'est quoi le problème? Alors, midazou shel shemen, cette quantité d'huile, il mouetet biyoter, c'est très peu. Bachval et ribou yagadosh shel apsemi, quand on prend en considération la quantité d'épices qui était impliquée dedans dans toute la préparation de shemen amishra, on se rend compte qu'il y avait très peu d'huile. Comment c'est possible qu'il reste encore de l'huile après pour Mishrat Kodesh, pour cette huile-là? Non seulement c'était ça, c'était pour pouvoir être mosher, moindre tous les kelim dans le Beit HaMikdash, l'oel moed, etc. Et donc, étant donné qu'on a tout de suite ce problème, à partir du moment où on parle de quantité, on a un problème de se dire comment c'est possible. Et donc, la réponse est, voilà comment ils ont préparé Shemen HaMishra, voilà la réponse à cette question. C'est pour ça que Rashi aurait ramené ça sur ce pasuk, pas sur le pasuk Vasita, et tout de suite dans le même Dibur HaMatril que Hin, qui est, c'est-à-dire l'endroit où on va parler de la quantité. Mais ce n'est pas incompréhensible encore. Cette question n'a répondu uniquement d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yehuda, Sher'um Bamaim, Shelvorit HaShemen, on a mis tremper toutes ces plantes-là dans l'eau pour qu'elles n'absorbent pas justement l'huile. Là, on a répondu. Comment c'est possible qu'une petite quantité d'huile va suffire par rapport à toutes ces plantes? On comprend pourquoi. Mais ça marche uniquement d'après l'opinion de Rabbi Meir. Ilou Aliba de Rabbi Yehuda. Ilou Aliba de Rabbi Meir. Mais d'après Rabbi Meir, la question est toujours là. C'est-à-dire, d'après Meir, c'était quoi? On cuisait tout ça ensemble. On n'a pas répondu au fait que c'est une très petite quantité d'huile. Que Pechat Rabbi Yehuda, comme la question qu'Rabbi Yehuda lui-même posait à Rabbi Meir. Et Rashi ramène cette question chez Virashi l'Alter. Rashi le ramène ici sur si. Il va aller la sortir avec Karen et nous, c'est pas qu'il n'y avait même pas assez d'huile pour pouvoir couvrir tout ça d'huile. Toutes les plantes-là, il n'y avait pas assez d'huile pour les couvrir. Donc, comment c'est possible de dire que cette petite quantité suffisait? Donc en fait, on n'a pas répondu à la question d'après les deux opinions. La seule opinion qui va répondre à la question comment est-ce qu'une petite quantité d'huile suffisait par rapport à cette grande quantité de plantes, c'était uniquement d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc pourquoi est-ce que Rashi ramène l'opinion de Rabbi Meir? Ce qui ne va pas nous aider d'Er Habshat. Donc maintenant, on a une grande question sur Rashi. Rashi m'évite Shetat Rabbi Meir. Rashi ramène l'opinion de Rabbi Meir. Shebo Shalku et Akarin. Qu'ils ont cuit toutes ces plantes-là dans l'huile. Il ramène tout de suite la question de Rabbi Yehuda, qui était la question il n'y avait pas assez d'huile pour pouvoir couvrir ces plantes-là. Mais sans même répondre à la question qu'on pose sur Rabbi Yehuda, la question que Rabbi Yehuda pose sur Rabbi Meir. Donc on a un problème dans l'opinion de Rabbi Meir, qu'il n'y avait pas assez d'huile pour faire ce qu'il fallait faire. Et on reste avec cette question. Donc, Rashi nous ramène une opinion, qui est une opinion problématique. Il va lui-même mentionner la question, le problème qu'il y a avec l'opinion de Rabbi Meir, qu'il n'y a pas assez d'huile. Il ne répond pas. Il continue tout de suite à l'opinion de Rabbi Yehuda. Rashi certainement ne va pas dire que non, c'est pour d'être shlogob, de refuter l'opinion de Rabbi Meir. Kimken lo yam mevi akla, c'était juste pour rejeter l'opinion de Rabbi Meir, il n'a pas pu ramener Rabbi Meir pour le rejeter. C'est faire sous ce pilpoul, c'est pas le derrière de Rashi. Ramener une opinion pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, si Rashi ramène l'opinion de Rabbi Meir, c'est que c'est un point, mais on ne voit pas du tout comment. Parce qu'il y a une question contre Rabbi Meir, une question logique, une question que Rabbi Yehuda lui-même pose, que Rashi ramène, et ça reste sans réponse. Il frate à moi d'avoir, c'est encore plus surprenant. Après que Rashi nous dit, et il ramène ça comme introduction, qu'il y a une machloquette parmi les chachamim. Et qu'on avait expliqué avant, que ce n'est pas que l'opinion d'Rabbi Yehuda, Rabbi Meir a été rejetée. Acheter à d'autres coulottes pour Pshuto Shemika, c'est que nous dire que Pshuto Shemika, les deux opinions sont aussi invalides l'une que l'autre. On avait dit ça tout au départ. Que quand Rashi nous dit qu'il y a une machloket chez Barmi le Chachamim, c'est tout de suite pour nous dire je vais ramener une opinion, ensuite une deuxième. Sachez que ce n'est pas parce que la première est meilleure que la deuxième, c'est que juste c'est comme ça que je peux écrire. On ne peut pas communiquer autrement. Donc il y en a une qui va venir avant, une qui va venir après. Mais quand Rashi nous dit qu'il y a une machloket, c'est pour nous dire que les deux sont égales. Comment est-ce qu'il peut nous dire que l'opinion de Rabbi Meir est égale? Alors qu'il ramène la question de Rabbi Yehuda, il n'y a pas de réponse de Rabbi Yehuda. Donc on a une opinion qui n'a pas de sens. Il n'y avait pas assez d'huile. Rabbi Yehuda pose cette question-là. Pas de réponse. Et donc on passe à Rabbi Yehuda. Comment est-ce que l'opinion de Rabbi Meir peut être une réponse au niveau pshat? Pourquoi il y avait assez d'huile? Hine. Bavli achen uva tirut. Dans la Gemara, dans Bavli, il y a une réponse de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi à Kouchazio. Encore une fois, dans le Bavli, les noms sont différents. Rabbi Yehuda, dans le Bavli, nous dit qu'on cuisait tout ça ensemble. Et c'était Rabbi Yossi qui disait non, ce n'était pas possible, il n'y avait pas assez d'huile pour tout, et donc il fallait faire ce système avec l'eau. Donc là, il y a une réponse. Cette fois, nous, dans le Rashi, Rashi ramène une autre opinion, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Mais dans le Bavli, c'est Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc, qu'est-ce qu'on répond là-dedans? Est-ce qu'il y avait un seul miracle dans le Shemen HaMishra? Dans le Trilato Yubet Lugin. Il y avait 12 logs. Ou Menoua Yanim Shach Mishkan. Et à partir de ces 12 logs, c'est-à-dire, comme je disais, à peu près 6 litres d'huile, qui n'est pas grand-chose, okay, vous comprenez, 1 litre et demi, les grandes bouteilles d'un litre et demi, vous en avez combien ? 3 bouteilles comme ça, et non, pardon, plus que 4 bouteilles, et on a les 6 litres. Non, qu'est-ce que je raconte ? Pardon. Oui, 4 bouteilles. 4 bouteilles, on a les 6 litres. Ok ? 2 bouteilles d'un litre et demi, ça fait 3, enfin 6. Donc, excusez les mathématiques, un peu bancales. En tout cas, donc, on avait donc, ces 3 grandes bouteilles, ou ces 12, ces 6 litres. Et donc, avec ça, qu'est-ce qu'on faisait? On devait oindre le Mishkan, les Kelim, Aaron et ses enfants. Et il en restait pour l'époque de Mashiach. Donc, effectivement, c'était quoi ce que l'Agma nous répond? Que dans l'huile, il y avait un miracle qui s'est passé. C'est un miracle, l'Agma nous dit. Il y a eu tellement de miracles. Ouais, un miracle de plus, que l'huile n'a pas été absorbée dans les plantes et qu'ils ont pu avoir donc, ces 6 litres d'huile qui restaient ensuite pour pouvoir oindre tout ce qu'il fallait. Ça, c'est la réponse que l'Agma nous donne. Ou là, me fait rechercher l'un tel effet à le car. Maintenant, dans Rashi, on ne peut pas dire que c'est ce que Rashi pense. Qui veut dire Rashi, premièrement, on voit nulle part que Rashi nous fait une allusion le fait qu'il y avait un miracle qui s'est passé. Il était à quel en plus que ça. Au-delà de ça, puis divrei Rashi l'Alan, akatu shemen dorotechem. Rashi un peu plus tard nous dit, donc il parlait de l'huile qui était faite pour les générations. Mika nous dit Rashi, de là on l'amdu abotenu, de là nos sages ont appris chez kulo kayam latid lavo, que tout ça va rester pour l'époque de Mashiach. Mashma, shemitza tochen aktovim akodmim le pasuk dorotechem. C'est-à-dire que en ce qui concerne les psukim qui étaient jusqu'à maintenant, enanu drashim lechidujeh shebashem mishkat rechesh. On n'a pas besoin de dire qu'il fait un miracle. Il n'y a pas d'allusion de miracle, aucune mention, etc. Et Rashi nous dit au contraire. Quand on parle de Dorotechem, Mikan, de là, de ce passou qu'on apprend que tout est resté pour le Shemeshah. C'est-à-dire qu'il y avait un miracle. Dès qu'on a commencé avec 6 litres, on a couvert tout le Kelim, le Mishkan, Aaron, etc. Et il nous reste encore les mêmes 6 litres à l'époque, pour l'époque de Mashiach. Donc c'est un miracle. Mais Rashi nous dit non, c'est Mikan, plus tard. Jusqu'à maintenant, aucune mention de miracle. On n'a pas besoin de mentionner le fait qu'il y a des miracles, qu'il y aura des miracles. Pas de miracle pour l'instant. Le miracle vient un peu plus tard, au niveau de la quantité qui va rester jusqu'à la venue de Mashiach. Donc on est obligé de dire que la question que Rabbi Yehuda pose à Rabbi Meir dans notre Rashi, où ce sont ces noms-là dont on se sert, c'est pas du tout une question pour Rabbi Meir. Il n'y a pas de problème. D'après Rashi, il n'y a aucun problème de poser cette question-là. D'ailleurs, Rabchat, sans mention de miracle, rien du tout. Et non mouval, maintenant c'est pas clair. Aleph, le chorez ou kasha alimta, bepashut elvar. Premièrement, c'est une question forte au niveau du pshat. Comment ça s'est passé? Adab, bederk limoun hachas netan liyashav lomar. Dans la Gemara, on peut dire, ok, nes echan nase cholou, est-ce qu'il y avait un seul miracle? Ah, ok, il y avait un miracle, encore un autre miracle. Avad berk hapshat en afilou remez lekar, derk hapshat, il n'y a aucune allusion à ça. Meidach, de l'autre côté, אם סביר לרשי שהתירוץ על הקושי זה כה פשוט, סי רשי פונס, כאילו הרפונס זה תמו אבידנט, כי למה פעם בזמן למונסיוני, שאינה עוד יש לה כלל, למה פעם בזמן לדון פרלי, למה הייתי כתגושה פיפור, שפוקו הפוזי לקסטיון? דונק, עונה, סקל רבי פי, תוז'ור שם פדיר, עומה לזה לימון של הטאבל. לפס של הטאבל, לפס הוא כה. לפס זה כרבי מאיר, אסון אופיניון. עונה לקסטיון של רבי מאיר. Rabbi Yehuda et Rashi ramassent cette opinion de Rabbi Yehuda et une question sur Rabbi Meir. On sait aussi que Rashi nous avait dit que les deux explications Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont les mêmes, sont aussi proches du Pshat, ont la même valeur si on peut dire, sont égales. Donc, même si on a une question sur Rabbi Meir, ça ne rejette pas du tout l'opinion de Rabbi Meir. Au contraire dans le sens où les deux sont là et sont mentionnés. Rashi ne parle pas de miracle, donc ce n'est pas la réponse. Plus tard, Rashi va mentionner le miracle, mais pas ici. Donc, clairement, ici, ce n'est pas la réponse. De l'autre côté, si on dit que la réponse est tellement évidente que Rashi n'a pas besoin de l'expliquer, ce qui est souvent le cas, on dit ça, pour expliquer à Rashi pourquoi est-ce que Rashi n'a pas parlé de ce problème, etc. C'est parce que, ouais, on peut comprendre la réponse tout seul. Dans ce cas-là, pourquoi mentionner la question? Donc, on a les éléments, il faudra bien sûr pouvoir les mettre en place et expliquer. Hey, Abi Urbazé. Le Shitat Rabbi Meir, d'après l'opinion de Rabbi Meir, ששלקו את הקרין בשמן, כי זה קווי דונק, זה פלונט לה, דון וויל, מלכתחילה אין כל מקום לשתות רשי על דרך הפשט לשאלה. פור לוי, פור רבי מאיר, יביא אוקין קיסטון לכתחילה, ותוקד אחרי רשי דרך הפשט, שוכסת קיסטון, הלא לסוך את הקרין אינו סיפק, כי הבאמן פעשי דוויל, פור קובריר, או פור וונדר, קובריר דוויל, זה פלונט לה. פורקוע? כי אין כל חיסרון בכך שדי שליקת הקרין נבלה מן השמן. Parce qu'il n'y a aucun problème avec le fait que les plantes vont absorber l'huile. Pourquoi? Je me suis dit, mais c'est vrai, parce que Rabbi pense, il n'y avait aucune obligation que Shemen Amishra soit de l'huile pure, uniquement de l'huile. Et là, Shemen, Vakarin Yachal, il y avait l'huile, il y avait ses racines, ses plantes à l'intérieur. Et c'était mélangé. Pourquoi? Je fais les dés et Shajalkam et Shemen. Parce que quand on les a cuits dans l'huile, ces plantes-là sont devenues grasses, si on peut dire, elles sont devenues liquides, comme une boisson. Donc c'était un liquide, ça s'est transformé en liquide. Même si on parle de shemen amishra, l'huile, et on parle de le verset, ou bien de l'asperger. Donc, c'est clairement pas un liquide. Étant donné qu'on a cuit ces plantes-là dans l'huile, et on parle de sholkan, c'est le lachon, shlika, c'est plus que la cuisson normale. C'est vraiment cuire. C'est-à-dire, bishul kaful mkrupal, une cuisson double. Donc, clairement, ça n'avait plus l'aspect de plante. La blanchon rachin est mouchin, mais c'était complètement dissous, comme un liquide. Donc les plantes ont été cuites dans cette huile-là, macérées, cuit, jusqu'à ce qu'elles se sont désintégrées. Et ce maintenant, on a une espèce de liquide avec ces plantes-là et l'huile. Donc il n'y a aucun problème. D'après Rabbi Meir, c'est pas une question. Ah, il n'y avait pas assez d'huile pour tout ça, quel problème? L'huile, effectivement, a pu être absorbée dans les plantes, il n'y a pas de problème. Les plantes vont commencer à fondre, si on peut dire, dans ce liquide. Et on aura effectivement peut-être un liquide un peu plus épais que l'huile, mais il n'y a aucun souci. C'est pas marqué nulle part dans la Torah qu'il ne faut pas le faire. Machalken, Rabbi Yehuda l'onir le farashken. Après Rabbi Yehuda dit, on ne peut pas expliquer comme ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda dit non. L'huile, shemen, la mishra, c'est shemen, c'est de l'huile. Et ça ne peut pas être une majorité, puisque d'après Rabbi Meir, l'huile, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait que 6 litres par rapport à toute la plante. Donc on aurait beaucoup. Si on prend toutes les plantes à l'intérieur, il y aura beaucoup. Mais en fait, c'est à quoi à la base? Ce sera plus plante que huile, d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir dit non, ce n'est pas possible de faire une chose pareille, parce que le pasuk nous parle de shemen, d'huile. Et donc il a dit, il y avait un autre système. Ils ont trempé toutes les plantes, qu'elles soient complètement remplies d'eau, qu'elles ne puissent plus absorber d'huile. Et après, ils ont mis de l'huile dessus, et l'huile a absorbé toutes les odeurs de ces plantes-là. C'est au gamatam que Tik Rashi a fait koshiato sur Rabbi Yehuda Shetata Bimeir. C'est pour ça que Rashi ramène la question de Rabbi Yehuda Rabbi Meir. Mais Diek Bolshono, il a fait attention dans ses mots, c'est-à-dire, allô, la source est à Karen Nosipek. Source, c'est de pouvoir oindre, si on peut dire, ou juste couvrir, comme on met une pommade ou une crème. Donc, il n'y avait pas assez d'huile pour couvrir, pas couvrir complètement, s'en submerger, mais si on veut badigeonner, si on peut dire, l'huile sur les plantes, il n'y avait pas assez d'huile. Même si, d'après Rabbi Meir, effectivement, l'huile aurait été absorbée dans les plantes, il n'y a pas de problème. Il ne fallait pas oindre ou badigeonner, si on peut dire, l'huile sur les plantes. Mais la loya shamanique, c'est vrai qu'on ne voyait plus d'huile, parce que l'huile a été absorbée, et ça faisait partie maintenant des plantes. Il voyait plus ou moins un mélange, une purée, si on peut dire, de plantes. Mais ce n'est pas grave. Donc, Rabbi Yehuda a dû poser une question plus importante, et plus essentielle. Comment est-ce que le pasuk pouvait appeler ça de l'huile? Parce que tu as une espèce de purée de légumes avec de plantes. Avec de l'huile, effectivement, il y avait de l'huile à l'intérieur. Mais c'était plus une purée de plantes que de l'huile. Et là, qu'elle a chon la sour, ben la dgish, adavar, sachin bo inout afel, ou batel legam le devan isour, à Karine. Donc, quand on badigeonne de l'huile sur quelque chose, ça pourrait dire quoi? Que la chose dont on va servir est batel, si on peut dire, et nullifiée complètement par rapport à la chose essentielle. Chez nous, ça va être la carène, c'est les plantes. Et clairement, on ne peut pas dire que le mélange va être appelé sur le nom de la chose qui avait disparu. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda vient de dire, il dit, je ne suis pas d'accord, pas du tout d'accord avec toi, Rabbi Meir. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on parle de Shemen HaMishra. On ne voyait plus d'huile. On ne peut pas, quand tu as quelque chose, je ne sais pas, donner un steak, par exemple, sur lequel on badigeonne un peu d'huile ou un peu de sauce, on ne peut pas dire, ah, maintenant, c'est une sauce. Non, c'est un steak avec de la sauce. Mais on ne peut pas dire que la chose qu'on badigeonne est la chose la plus importante et la chose sur laquelle on met cette huile est devenue tafel, est devenue batel. Non. Donc, la même chose. Si tu me dis que l'huile, il y en a tellement peu qu'on ne peut même pas badigeonner ça sur les légumes, sur les pains, sur les légumes, sur les plantes, etc. Comment est-ce que tout d'un coup, on peut appeler ça shemen hamishra, l'huile, alors qu'il n'y a pas d'huile? C'est un mélange de plantes avec de l'huile dedans, c'est vrai, mais c'est un mélange de plantes. Okay? Comme, je ne sais pas, si on pense à la harissa, il y a de l'huile dans la harissa, mais ce n'est pas de l'huile. L'huile piquante, c'est l'huile piquante. La harissa, c'est la harissa. Si c'est de la harissa, c'est vrai qu'il y a de l'huile dedans, mais c'est une purée de piment. Donc là-bas, ce n'était pas une purée de piment, c'était une purée de toutes ces plantes qu'il fallait ramener. Même si on met de l'huile dedans, on ne peut pas dire que tout d'un coup, ça s'appelle de l'huile. C'est différent. Donc, en tout cas, c'est pour ça qu'on a cette marloquette. Donc, Rashi nous dit plus ou moins, là on en est, que quoi? Il y a deux manières de voir les choses. On peut suivre l'opinion de Rabbi Meir, et on peut suivre l'opinion de Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, Shemen HaMishra, c'était quoi? C'était une espèce de purée de plantes, avec de l'huile dedans. D'après Rabbi Yehuda, c'était de l'huile. Il fallait faire en sorte que c'était de l'huile pure, de l'huile d'olive, et il fallait en sorte que cette huile absorbe les odeurs des plantes, des épices qu'on mettait dedans. Et donc, il y avait tout un système, comment préparer ça, pour que ce soit de l'huile pure, mais qui absorbait les odeurs de ces plantes, de ces épices, etc., avec lesquelles on faisait le shemen HaMishra. Maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Biu atama pukta ben Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, voilà l'explication de la raison de la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Je voudrais juste revenir un instant en arrière. Quand Rashi nous avait dit avant qu'il y ait une machloket entre Chacham Israël, on va venir vers ça un peu plus tard. Mais c'est pour dire que les deux explications sont les mêmes, équivalentes au niveau pshat. On ne peut pas dire qu'une explication est meilleure que l'autre. Il y a les deux. Donc je reviens ici à Vav. Donc, Biu atam pukta ben Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Voilà l'explication de la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Bakatuv Neymar, dans le pasuk, c'est marqué la chose suivante. Vasita oto shemen mishchat kodesh. Tu feras ça, de l'huile, poindre, ça. Vokach mekachat, une espèce de composé. Maser okach, fait de manière composée. Shemen mishchat kodesh, ce sera de l'huile poindre, qui sera sainte. Haino. Shishne chalakim zvanim eshbadao. Il y a deux choses, deux parties et deux temps. Aleph, mishchat maser, au moment où on le fait. Vasita oto, quand on va le faire. C'est-à-dire, on fait un mélange, une composée. Asiyam suyam bechamel, on fait quelque chose avec de l'huile. Asiyam bofen shem makachat. Et on fait ça de manière, c'est ce qu'on appelle ça, makachat. Comment je peux rechercher? Rachel nous explique, ça veut dire quoi makachat? Kol davar amura bechavero, toute chose qui est mélangée, ou les choses sont complètement mélangées l'un avec les autres, ashenase kofach mezeroach otam, jusqu'à où les choses, les odeurs, les goûts, où les saveurs se sont complètement mélangées. Karoui mirkachat. On appelle ça mirkachat. Donc, au moment de l'action, il fallait faire justement ce mélange d'huile et de légumes, de plantes, qui étaient mélangées ensemble. Et mirkachat, ça veut dire quoi? D'après, comme Rashi nous explique, mirkachat, ça veut dire que c'est un mélange où les deux sont complètement mélangés ensemble. On ne peut plus les séparer. Chacun absorbait les goûts et les saveurs de l'autre. La chassiazou, après, une fois qu'on a fini, shemen mishchat kodesh, il faut que ce soit de l'huile sainte. Constamment, tamit. Ou basé au tochen achilik ben Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Voilà la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Maou apap et ben hashtam shibo et kardiacha. Quel est le point dans ces deux choses-là qui est la chose essentielle? C'est-à-dire, on a maintenant deux points. On a la préparation et on a le résultat. Dans la préparation, on parle d'un mélange, d'une composée de toutes ces plantes et de l'huile, etc. À la fin, on appelle ça shemen mishchat kodesh. Le résultat, c'est de l'huile. Donc, on va expliquer ça. Le shitat Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, bo shalku, qui nous disait donc on a cuit tout ça, donc toutes ces plantes étaient cuites dans l'huile. Inyan asiya b'shemen ve'al mekachat itkamu b'tachlit hashlemut. Une partie du pasuk était faite à 100%, c'est-à-dire on a fait cette mekachat, on a fait ce mélange, et c'était avec de l'huile. C'était fait exactement comme il fallait. C'est-à-dire que c'est quoi Mirkachat? On a mélangé ces deux choses-là, les plantes et l'huile. Davar, Mourab, Chavero, deux choses qui sont complètement mangées. Les débuts, Shlam, Yachad, comment ça s'est mélangé? Parce qu'on les a cuits ensemble. Sphir, le Rabbi Meir, donc Rabbi Meir pense. Shamenat, le Kaim, et Tetsivu, il va citer auto, Mirkachat, Gomer, afin de pouvoir accomplir ce que le pasuk nous dit, qui est de faire justement ce mélange. Où on a des deux choses complètement séparées qui se mélangent et qui absorbent les saveurs de l'un de l'autre, c'est-à-dire les plantes d'un côté, les épices, et de l'autre côté, de l'huile. Donc, pour pouvoir accomplir ça, il fallait le faire d'une manière à ce qu'on a cuit ces plantes-là dans l'huile. Donc, ces plantes-là ont mijoté, si on peut dire, dans l'huile. Ça a absorbé les saveurs et les odeurs, etc. Et on a exactement accompli ce que le pasuk nous a dit. Mikachat. Vasita mirkachat. Vezot, et ça, af apeshek totsa mekach, même si le résultat à la fin, ça va être quoi? L'achese, vikim apras shemim prash kodeshi, que quand il s'agit de faire ce qui est marqué à la fin, d'avoir de l'huile sainte, l'otim mitzvot hashem shlemut, on n'aura pas vraiment de l'huile sainte. En tout cas, de l'huile shemim ftats, de l'huile séparée. La rak davar morab kren, l'huile va être complètement mélangée dans cette purée de plantes et d'épices. Donc on n'aura pas une bouteille d'huile qui ressemblera de l'huile, mais juste à l'huile avec des saveurs. C'est une bouteille qui va ressembler avec un mélange de plantes. Ce sera un liquide, mais ce sera un mélange de plantes avec de l'huile dedans. Mais ce sera comme une espèce de sauce, si on peut dire, avec des plantes, etc., et de l'huile. Donc, on aura accompli à 100% ce que le pasuk nous dit de faire mekachat, mais le résultat, ce sera un peu moins shemen mishchat kodesh, de l'huile, parce que ça ressemblera pas à une bouteille d'huile, ça ressemblera à une espèce de bouteille de sauce. Zot, pardon, on l'a fait. Machen ken l'shitat Rabbi Yehuda. Par contre, vient Rabbi Yehuda. Af al pi shel idei zeh shorim b'mayim. Il nous dit que même si c'est vrai qu'on les a, on a trempé ça dans l'eau. Arkach hitziv alem hashemim kaprochol. Ensuite, on a mis l'huile par-dessus. Asiyah b'shemim rak hitziv kapro. Comment est-ce qu'on a fait l'huile? On n'a pas fait l'huile de manière de markachat. En kan markachat. C'était juste qu'ils ont mis de l'huile dessus et que cette huile a absorbé les saveurs. Donc, makachat, on n'a pas fait. Il n'y a pas eu ce mélange, cette composée qui était faite. Pourquoi? Parce que comment est-ce que l'huile, d'après Rabbi Yehuda, a absorbé les odeurs et les saveurs de ces épices-là? Pas parce que ça a été cuit ensemble. Uniquement parce que ça passait un peu de temps dessus et ensuite on récupère que l'huile. C'est-à-dire qu'on met de l'huile sur ces plantes-là. Les plantes, elles ne vont pas absorber l'huile parce qu'elles sont remplies d'eau. Donc, on va mettre l'huile sur les plantes. Et ensuite, on va se prendre que l'huile. Donc, on aura effectivement de l'huile pure. Mais maintenant, quand la patoua nous dit makachat, c'est-à-dire c'est composé d'huile et de plantes, on n'aura pas accompli ça. Ce ne sera pas là. Donc, c'est vrai que makachat, ce ne sera pas fait. Donc, mekol makom, mais atotsa shel asiyah zeh b'shlemut. Le résultat sera parfait. C'est-à-dire, shemen mishrat kodesh yemetachlit. On aura de l'huile. La Torah nous dit qu'il faut avoir de l'huile, shemen amishra, de l'huile, on aura une bouteille d'huile à la fin. Une huile parfumée, mais de l'huile. Alors que Rabbi Meir, on n'a pas d'huile à la fin, on a une bouteille de sauce. Zéo shemen mamash, mais ça, c'est exactement ce que le passage nous dit, que le résultat final doit être shemen mishra de kodesh, une bouteille d'huile, de l'huile. Et kevan, shepashtut aktuvim, en kolo chacham mav, ben ashnam achiyakan. Tant que d'après pshuto shemikra, on ne peut pas dire quelle est la meilleure des explications. Parce que chacun a un problème, chacun a un bon point. Est-ce que c'est l'accent, le point le plus important, c'est qu'il faut faire cette composée, et donc ça va être en cuisant les plantes avec l'huile, ou bien, on va laisser l'huile absorber les odeurs et les saveurs, et ensuite on va récupérer que l'huile. Qui a raison, si on peut dire, au niveau pshat, ça peut être l'un ou l'autre. Et donc, Rachid nous a dit, avant même de nous amener les deux opinions, pour dire quoi? Pour mettre l'accent sur le fait que les deux opinions sont équivalentes dans Pshuto Shemikra. Maintenant, on peut comprendre un autre point. Quand Rachid nous dit, que la machloket était parmi les chachamim juifs, on avait posé la question, qu'est-ce que ça veut dire chachamim juif? À l'opposé des chachamim non juifs, qu'est-ce que ça veut dire? Non, Hachim est de la chose suivante. Shtei adorot elu shel Rabbi Meir Rabbi Yehuda, ces deux opinions-là de Rabbi Meir Rabbi Yehuda, b'ofen asiyat shemen hamishrat, dans la manière dont on préparait cette huile, mashkafot shnei ofanim efshareim bederech shebal adam lagashet kiyum hamitzvot. Ça représente, ça reflète deux manières possibles dans la manière dont on doit faire avoir notre approche par rapport au mitzvot. Quand le banidan est comme par exemple chez nous, mais qui m'a tiré vers cet chemin? Quand il faut faire cette huile-là, la chaîne est plutôt un chachamim. Donc c'est une machloket générale parmi les chachamim. Donc c'est pas juste une machloket ici, c'est une machloket parmi les chachamim ici. Il dit non, parmi les sages juifs, parmi nos chachamim, il y a deux approches de manière générale. À la Torah mitzvot. C'est quoi ces deux approches-là? האם יש להעדיף את תכלית השלמות בהווה? Est-ce qu'il faut favoriser de faire les choses de manière parfaite, mais maintenant? אף על פי שעל דזר חסר בשלמות לאחר זמן. Même si plus tard, ça va quelque chose qui va manquer, on aura un problème plus tard. או שמה מנשנה בעיקר זה השלמות בגמר עניין לאחר זה. Ou bien, peut-être que ce qui est plus important, c'est ce qui va se passer plus tard ou de manière permanente, plus tard. Même si la seule manière d'arriver à quelque chose d'un bon résultat à la fin, c'est que si on va faire les choses maintenant, pas à 100% comme il faut. On va revenir à ça, on va faire l'Ara 16, où le Rabbi nous donne des exemples de ça. Mais c'est quelque chose qui ressemble à cette machloquette. Il y a une machloquette. Est-ce qu'il faut se dépêcher de faire les mitzvot le plus tôt possible? Ou bien Borov Amadat Melech, de faire les mitzvot avec beaucoup plus de monde. Ça, c'est une machloket. Okay? Par exemple, on vient sortir de Purim. Est-ce que, par exemple, il y a un dien de Borov Amadat Melech, alors cette année c'est un peu différent, mais de manière générale, Borov Amadat Melech, il faut lire la Megillah avec beaucoup plus de monde. Plus il y a de monde, mieux c'est. De l'autre côté, on essaie de faire Zerzé Magdimé, de faire la mitzvah le plus tôt possible. Donc, est-ce qu'il faut mieux faire, créer de la Megillah le plus tôt possible, disons le matin, dans un Bet Rabbah ou autre chose, ou bien, si on sait qu'il y aura plus de monde dans l'après-midi, après le travail par exemple, ou autre chose, attendre pour faire une lecture publique avec plus de monde. Un autre exemple qu'on ramène souvent, c'est une Brit Mila. On est censé faire la Brit Mila, Zerzé Magdimé le plus tôt possible. De l'autre côté, si on sait qu'il y a des gens qui ont le matin, les gens font la course un peu pour aller au travail, ou à l'école, etc., ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut faire la Brit Mila dans l'après-midi? Bien sûr qu'on a le temps, pas pendant l'hiver. Peut-être que c'est mieux d'attendre la Brit Mila, de mettre de côté Zerzé Magdimé le mitzvot, pour pouvoir faire la Brit Mila quand il y a plus de monde. Donc le conflit est, est-ce que je fais ça le plus tôt possible maintenant, tout de suite, même s'il y aura moins de monde? Ou bien, d'une certaine manière, c'est mieux d'attendre un peu plus tard, parce que plus tard, ce sera mieux. Même si maintenant, ce ne sera pas bien. Ça, c'est un exemple. On va sauter la parenthèse. Et un autre exemple. Shakla Vetaria, la discussion. Est-ce que quelqu'un a le droit, est-ce qu'il est obligé, donc, de jeûner Tsam Gedalia? Si après, il ne pourra pas jeûner Yom Kippour. Comment est-ce qu'on regarde ça? D'un côté, Tsom Gedalia, c'est uniquement des Chachamim. Mais c'est le premier jeûne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à la personne? Vous savez quoi? Tu n'as pas la force de jeûner les deux. Donc, si tu vas jeûner, tu ne pourras pas jeûner encore une fois une semaine plus tard. Est-ce qu'on regarde, on dit maintenant, jeûne aujourd'hui Tsom Gedalia, parce que c'est aujourd'hui. On verra plus tard, c'est plus tard, c'est plus tard. On s'occupera de ça quand ça arrivera. Mais on dit non, non. Mange aujourd'hui, comme ça tu auras les forces. Et plus tard, comme ça, quand arrive Yom Kippour, tu pourras jeûner. Comment est-ce qu'on regarde les choses? Donc on a ce conflit, de manière générale, dans plusieurs aspects de la Torah. Et c'est ce que Rashi veut nous dire, c'est une machloket générale dans la manière dont on regarde les choses. Comme au Benadon, il y en a par exemple chez nous. Hachem, quand il nous a commandé de faire cette huile Shemen HaMishra, il ne nous a pas expliqué la halakhot de l'huile. Le pâté au fané asiato, comment faire exactement? Et là, Tziva Beklaut, il a fait un commandement de manière générale. C'est un marquage qu'il faut faire, un mélange. L'idée c'est Shemen Amishrat Kodeshi, et le résultat ce sera quoi? D'avoir de l'huile sainte. Ou Mela, automatiquement. D'avoir Talou, Bedat Rachmise, Bofen Kemamise. Pourtant, les Rachamis se disent ok, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va regarder ça? On a l'obligation d'avoir un mélange, de commencer avec un mélange, et ensuite on a l'obligation d'avoir de l'huile. Et apparemment, c'est l'un ou l'autre. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? Dat Rabbi Meir, l'opinion de Rabbi Meir, Shikasher, Hayal ben Israël, Sotam Shemen, quand le peuple juif a dû faire l'huile, faire au moment de la fabrication. Trashvo Bekar Beshlemot Kfesh, Bove, ils ont regardé les choses commencer maintenant, c'est-à-dire Bekar Asiyat Hashemen. Maintenant, on est censé construire, faire fabriquer l'huile, on va fabriquer l'huile. C'est-à-dire que le Tkayem va citer auto, il faut accomplir ce qui est marqué dans le Pasuk, va citer auto, tu le feras, ma kachat un mélange, un composant. Aken, Boshakut, Aken, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement ce que le Pasuk nous dit, c'est que on a pris toutes ces plantes-là, et on les a cuites dans l'eau, dans de l'huile, pardon. Comme ça, on a créé ce mélange dont la Torah nous parle, mais karat. Un composé d'huile et de plantes. Afalpish, les désirs, chissaram, metotza, shlachosma, même si après, il y aura un problème. C'est quoi le problème après? Shem nishrat kodeshé, que le résultat, c'est qu'il doit avoir de l'huile. Là, on ne verra plus l'huile, on verra une bouteille. Comme je disais, ça devrait avoir l'odeur de sauce ou quelque chose comme ça. Plus une bouteille d'huile. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. On se focus, on reste concentré sur le présent, sur ce que je dois faire maintenant. Ce qui va se passer plus tard, on verra. Pour l'instant, mon accent est sur ce que je dois faire maintenant. Dans l'action, ce que Hachem m'a demandé de faire, c'est Mikachat, ce mélange-là. Hachem, Ken Rabbi Yehuda Nakat. Par contre, Rabbi Yehuda, il a pris. Shebeove, au présent. Zachliot, Achana, le Shlomo de Batid. Il faut penser déjà à ce qui va se passer plus tard, à la fin. C'est ce qui est important, c'est la fin. La reine. Donc on ne peut pas, d'après Rabbi Yehuda, dire qu'on a cuit ces plantes dans l'huile. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on n'aura plus d'huile à la fin. Le résultat ne sera pas une bouteille d'huile avec le parfumé. Ce sera une espèce de sauce. Et c'est parce que la Torah nous a dit. La Torah nous parle d'huile. Donc il faut trouver un moyen que le résultat soit à la fin, le résultat final soit abouti, qui est une huile parfumée. Pour avoir une huile parfumée, mais c'est une très petite quantité, il faut trouver un système. Alken, Atrabiudahi, donc c'est quoi Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shiro Mamaim, ils ont trempé dans l'eau, etc. Même si de cette manière, on n'a pas fait vraiment ce que la Torah nous dit, c'est-à-dire de faire ce composé, ce mélange. Parce qu'il n'y a rien de mélangé. Mais à ce moment-là, on aura accompli ce que la Torah nous dit à la fin. Le résultat final sera parfait. On aura de l'huile, une bouteille d'huile parfumée avec toutes ces plantes qui devaient. Puis, Yuvan, maintenant, basé sur ça, on comprend. Gama, chez Rachid, ce qu'il y a chez Matem, chez Rachamim, c'est pourquoi ce Rachid a mentionné les noms de Rachamim. La Kata Gersa, non seulement il a mentionné les noms, il a pris la Gersa qui nous dit Rabbi Meir et Rabbi Yuda, pas Rabbi Yuda, Rabbi Yossi. Donc, la Kata Gersa, chez Rabbi Meir, Omar, chez Alkoma, Rabbi Rabbi Yuda, chez Rabbi Maim. Donc, l'opinion de Rabbi Meir et Rabbi Yuda, velo Rabbi Yuda, Rabbi Yossi, pas Rabbi Yuda à la place de Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que Rashi plus tôt nous a ramené aussi une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Et là-bas aussi c'est la même svara dans la machloket. D'ailleurs, très intéressant, Rashi se sert des mêmes mots là-bas, nechlekou bochachm Israël. Il y a une machloket parmi les sages. C'est-à-dire, comme Rabbi nous a expliqué ici, ça veut dire quoi? Il y a une machloket, comment regarder les choses de manière générale par rapport aux mitzvot. Et où se trouve cette machloket? Au dos d'inosh à socher. Par rapport au dîner à socher, un socher c'est quelqu'un qui loue un objet. Ou un animal, il loue, il est locataire. Katav Rashi be parashat Mishpatim. Rashi nous dit la chose suivante dans la parashat Mishpatim. Lo piresh ma dino. La Torah ne nous explique pas quel est le dîner du socher, de celui qui loue un objet. C'est-à-dire, il a loué quelque chose, il a loué un animal par exemple. Ou un objet, et l'animal a été volé. Quelle est l'obligation de ce locataire? Est-ce qu'il est considéré comme un shomer chinam, quelqu'un qui va garder un objet sans être payé? Il rend un service à son ami, quelqu'un lui demande, regarde, s'il te plaît, garde-moi ça. Okay, garde-moi ma valise, ou garde-moi, je sais pas, mon sefer, ou garde-moi autre chose, jusqu'à ce que je revienne. Et le shomer chinam, quelqu'un qui garde sans être payé, il est uniquement responsable s'il a été négligent. Et s'il a fait les choses comme il fallait, il n'y a pas de responsabilité du tout. Donc ça, c'est une manière de dire, est-ce que le socher est responsable comme ça? Ou bien, est-ce que le socher a le même degré de responsabilité, donc le socher, celui qui loue, a le même degré de responsabilité qu'un shomer sachar, c'est quelqu'un qui est payé pour garder quelque chose. À ce moment-là, c'est que le shalom gam le gneva vaveda, quelqu'un qui est payé pour garder, il est responsable, même si ça a été volé, même si ça a été perdu, il doit rembourser le propriétaire. La Torah ne nous dit pas où se trouve, où se situe le socher, donc il y a machloket. Le fichar, c'est le kobuchach misrael. Et donc Rashi nous dit, il y a un machloket, alors que la Torah n'est pas claire, il y a un machloket parmi les chachamim, chachmei Israël. Socher ketzad meshalem, comment est-ce que le socher paye? Quel est son degré de responsabilité? Rabbi Meir Omer, que shomer chinam, Rabbi nous dit, comme un shomer chinam, comme un garde qui n'est pas payé. C'est-à-dire, il paye, il n'est jamais censé rembourser le propriétaire, à moins qu'il ait été négligent. Par contre, Rabbi Yehuda Omer, que shomer sachar, Rabbi Yehuda nous dit qu'il est comme un shomer sachar. Comme quelqu'un qui est payé pour garder, donc un degré de responsabilité quand même assez important. Tu n'as même pas tout, la raison est très simple. Rabbi Yehuda Sferele, Rabbi Yehuda pense, je socher que shomer sachar. Un socher, il est comme un shomer sachar. Donc le locataire, il est comme celui qui est payé pour garder un objet. Pourquoi? Les fiches, mais je t'amèche bachor, parce qu'il va se servir de l'objet. Il va servir du bœuf, par exemple. Nimsa, je me kabel sachar shmirato. Donc étant donné qu'il va se servir de l'objet, il a, ou de l'animal, il a un bénéfice, il est payé, si on peut dire. Ça paye, c'est l'usage de l'objet. Al-Shmirato pour garder. Donc quand on loue un bœuf, par exemple, okay, pour aller travailler dans le champ, j'ai bien sûr la responsabilité de retourner ce que j'ai pris. Ce n'est pas un achat, c'est une location dont je dois le rendre. Donc, je suis un chômeur, d'un certain cas, j'ai une responsabilité de chômeur, de garde, de gardien. Maintenant, est-ce que je suis payé ou est-ce que je ne suis pas payé? Donc d'après Rabbi Yehuda, il dit oui, bien sûr que tu es payé. Avec quoi est-ce que tu es payé? Tu es payé par l'usage de cet objet ou de cet animal. Ça c'est Rabbi Yehuda. Il aura bien sferele. Rabbi Meir pense, shekevan shasocher meshalem alan. Étant donné que le socher paye pour profiter de ça. C'est pas qu'il a un bénéfice et que tout d'un coup il a ce bénéfice extraordinaire, c'est qu'il a le droit de se servir de cet animal. Il est payé pour ça. Il n'a pas un bénéfice parce qu'il paye pour ça. Donc on retourne à zéro, si on peut dire. Il va payer, je ne sais pas, 50 euros. Il a un usage de 50 euros. il est à zéro. On met la dino que chemin chinam, donc il est comme un chemin chinam. C'est quelqu'un qui garde un objet sans être payé. Donc c'est-à-dire qu'on sépare, si on peut dire, la garde de l'usage. L'usage, c'est vrai qu'il a un bénéfice de l'usage, mais il paie pour ça. Et au niveau de garder l'objet, sa responsabilité de retourner l'objet, ça c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il n'est pas payé. Maintenant, apparemment, on ne comprend pas la raison de Rabbi Yehuda. Avedamet, Sacher le Shomer Sacha, qui compare le Shomer Chinam, le Shomer Sacha au Sacher. C'est-à-dire, Chiyu Shomer Sacha avec Avedamet, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est payé pour garder un objet, il est responsable s'il a été volé ou perdu? Parce qu'il a été payé pour garder un objet. Il n'a pas fait son travail, il est payé pour. C'est de quoi qu'il est payé pour? Le propriétaire va lui donner l'argent pour qu'il garde les choses de manière sérieuse, qu'il prenne son travail sérieusement. Pour protéger l'objet, même si on a peur de que ce soit volé ou perdu. Donc, étant que le fait que le maskir, celui qui va, le propriétaire, va donner la permission au locataire de se servir de cet animal, c'est pas qu'il lui donne ça en récompense, si on peut dire, ou en salaire pour garder l'objet. C'est parce qu'il a été payé pour ça. Pourquoi est-ce qu'il va tout d'un coup, ce locataire, devient responsable de garder l'objet comme s'il a été payé? Il n'est pas du tout payé, il n'est pas payé pour l'objet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas payé pour l'objet. Il se sert de cet objet, oui, mais il a payé pour ça. Ce n'est pas qu'il se sert de cet objet gratuitement. Donc il a 50 euros de bénéfice, il paye 50 euros. Il n'y a pas un bénéfice à ce niveau-là. De l'autre côté, en tant que chômeur, la responsabilité de rendre l'objet, il n'est pas payé pour ça. Donc comment est-ce qu'on peut nous dire qu'il est considéré comme un chômeur sacre? Voilà l'explication. Ploktat, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Kloya Ploktat, Amak, Laitma, Machia, Ove, Oatid. Comment l'expliquer plus tôt? Cette machloquette ici par rapport au Socher, c'est la même machloquette si on regarde le présent et le futur. Expliquons ça. Imnilkot, si on va apprendre, Shamaskir Mitrashem Bikabove, que le propriétaire, celui qui va louer l'objet ou l'animal, considère le présent. C'est quoi le présent? Il veut gagner de l'argent. Comment est-ce qu'il va gagner de l'argent? En louant son bœuf. Et là, mais il a aussi un autre intérêt, c'est qu'il ne veut pas perdre son bœuf. Donc il voudrait que le bœuf soit gardé aussi, protégé, si on peut dire, au moment où il va louer ça. Donc on peut dire que le propriétaire qui va louer donc cet animal ou cet objet, il est satisfait si le gardien, donc le locataire, va garder son objet, le lochmira moula shomer sacha, sans être aussi strict ou aussi attentif qu'un shomer sacha, quelqu'un qui est payé pour faire ça. Shemata'ata lahagen mifnei davar biteragil alul tachash ba'atid. C'est quoi le problème? Pourquoi? En fait, quand il y a un degré de responsabilité pour le chômeur, au moment où on donne un objet, on demande à quelqu'un de garder quelque chose, mais on va louer. Ce n'est pas qu'on attend nécessairement quelque chose de terrible qui va se passer. On a peur que peut-être dans le futur, il y aura un problème. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. Donc la personne qui va louer son objet, d'un côté, il gagne de l'argent. De l'autre côté, il sait que le type est responsable, si on peut dire, de faire attention à l'objet. Mais ça lui suffit, qui garde ça comme un chômeur chinam. Comme si on demandait à quelqu'un de nous rendre service et de garder un objet, de le rendre en bonne condition. Pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est bien. Il y a quelqu'un qui regarde l'objet, c'est pas abandonné. Ça suffit, c'est suffisant. Et la possibilité que peut-être plus tard, ça va être volé, ou ça va être perdu. C'est pas ça qui va le faire hésiter. On dit non. Je ne vais pas louer maintenant mon objet, je ne vais pas faire mon argent maintenant. Peut-être que ça va être volé, peut-être que ça va être perdu. Non. Il a dit, je fais mon argent, je prends mon argent. Maintenant, je prends mon argent maintenant. Ah, peut-être que ça va être volé. Et que si c'est un chômeur chinam, il va faire moins attention qu'un chômeur sacha. Si ça arrive, ça arrive. On gérera à ce moment-là. Mais Pour l'instant, il n'y a pas de raison de croire que ça va arriver. Okay? Donc, je ne sais pas, pour prendre un exemple, on est au 770, on demande à un ami, regarde-moi mon tefilin. Est-ce qu'on dit, regarde, est-ce que ça ferait une différence dans notre tête en disant, regarde-moi mon tefilin, voilà 5 dollars? On a confiance que tout va bien se passer. Maintenant, on ne veut pas les laisser comme ça juste sur un banc isolé, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va passer, qui va les prendre. Mais, si on demande à quelqu'un d'être responsable, personne ne va être responsable. Au cas où il y aura effectivement quelque chose vraiment qui va se passer, etc., on ne sait pas quelque chose qui rentre en compte. Donc pour l'instant, quand on dit Maché Batoar, Batoar, ce qui est sûr, c'est que lui va louer son animal, son objet, et il, Bezrat Hashem, tout va bien se passer. Au cas où, on verra. Okay? Un peu comme on loue une voiture, généralement parlant, Bezrat Hashem, tout se passe bien, et on rend la voiture. Alors effectivement, il y a une assurance, il y a tout un tas de contrats, au cas où, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais de manière générale, on rend la voiture à la fin de la location. Okay? Donc, la même chose, il dit, bon, je vais louer ma voiture, je vais louer mon animal, mais Bezrat Hashem, tout va bien se passer, et c'est pas parce que j'ai une crainte qu'il y a quelque chose qui va se passer, ce qui va m'empêcher de faire de l'argent maintenant, aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y aura quelque chose. Donc, encore une fois, pour cette opinion-là, donc, ce qui est important, c'est maintenant. Donc, d'après Rabbi Meir, qui nous dit que le présent est plus important que le futur. Donc, le maskir, celui qui va louer l'objet, l'animal, etc., il dit, regarde, un shomer chenam, ça me suffit. Pour l'instant, je fais mon argent. Au cas où il y a une éventualité qu'il y aura quelque chose qui va se passer, on verra. Pour l'instant, j'ai un shomer chenam, donc j'ai quelqu'un qui se porte responsable. Ça me suffit. Je fais mon argent, ça me suffit. Au cas où il y aura un problème, on verra. Parce que pour Rabbi Meir, l'instant, c'est le présent qui compte. Par contre, après Rabbi Yehuda, qui nous dit que non, le futur est plus important que le présent. Tant que celui qui va louer, le propriétaire, n'est pas 100% confortable, que la personne, le socher, le locataire, va être absolument, va faire très très attention, okay, de garder ça de manière très sérieuse. Que même s'il y a un problème éventuel dans le futur, j'ai aucune inquiétude à avoir. Il ne va pas abandonner son espoir, si on peut dire, ou son intérêt dans le futur pour l'argent qu'il va faire aujourd'hui. Étant donné que le socher n'est pas comme celui qui loue, il n'est pas comme un shomer chinam, qui rend service au propriétaire. C'est quelqu'un qui va s'en servir. Donc on attend que le maskir, le locataire, va faire très attention à cet objet. Donc on a cette marloquette, encore une fois, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ou la même opinion. Rabbi Meir pense que c'est le présent qui compte. Rabbi Yehuda dit non, c'est le futur. Et pour renforcer cette idée-là, que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda suivent cette opinion, ces opinions qu'ils ont. Chacun son opinion. C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, c'est le présent qui est le plus important. D'après Rabbi Yehuda, c'est le futur. Ramenons-nous, dit le Rabbi, une autre machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc on aura trois machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ad kamo mezamnin ad kazaï, dit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, mer ad kaber. Une machloket dans la Gemara, c'est le Mishnah dans la Gemara Brachot. Combien il faut avoir mangé pour pouvoir être obligé de faire zimoun. Donc il y a trois personnes qui sont à table ensemble. Combien est-ce qu'il faut que personne ait mangé pour qu'il y ait maintenant zimoun? Donc, Stam Mishnah, qui est Rabbi Meir, pas de nom, nous dit jusqu'à Kazaït. Et Rabbi Yehuda nous dit qu'il faut avoir Kabetsa. Donc un c'est un Kazaït, l'autre qui est du Kabetsa, deux Kazaït. Le Gemara Nibara Machloket. Le Gemara nous explique la Machloket. Bikra explique sa Machloket dans les Psukim. Rabbi Meir, ça va avoir Khalta Zouachila. Le Pasuk, c'est Vachalta, ça va te voir. Tu mangeras, ça va, tu vas être rassasié, tu feras Birkat Amazon. Okay? Donc ce passage nous dit la chose suivante. Rabbi Meir pense, Vachalta, quand c'est marqué dans ton Vachalta, tu mangeras, Zouachila, ça veut dire manger. Vesavata, tu vas être rassasié, Zouchtia, ça veut dire boire. Vachila, Bekazaït. Et Achila, c'est combien? Dans tout à toi, Achila, c'est manger un Kazaït. Donc c'est un Kazaït ici. Ok. Et quand on a mangé et bu, un Kazaït, il faut faire Birkat Amazon. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda pense, Quand la Torah nous dit Vachalta Vesarata, c'est-à-dire qu'il faut avoir mangé assez pour être rassasié. Il ne s'agit pas juste de manger un kazaït, parce qu'à chaque fois qu'on mange dans la Torah, c'est marqué 5 kazaït. Non, non, non. Là, c'est un din particulier, il faut être rassasié. À quelle quantité on est rassasié? Zé kabetza. Ok? Ça, c'est la gemara. Ou là, vatosvot sham katvum. Le tosvot, ils nous disent quelque chose d'intéressant. Hanekra yasmachta balma. Le psukim qu'on ramène, c'est juste une asmachta. C'est-à-dire, c'est juste, on se repose sur ce pasuk, et ce n'est pas ce que le pasuk veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mitzvah dans le pasuk. C'est juste pour trouver un support à l'opinion dans les psukim. De midoraita. Parce que mina Torah, quand la Torah nous dit Vachalta Vesavata, ça veut dire qu'il faut être rassasié. Ce n'est pas un kazaït ou deux kazatim. Parce que si quelqu'un a mangé deux kazatim, il ne va pas être rassasié nécessairement. Il fait un repas. Donc quand Rabbi Meir, Rabbi Yudan nous dit Vachalta Vesavata, c'est un kazaït ou bien deux kazatim ou bien un kabetza, est-ce que c'est vraiment le pasouk? Non, Tosfot, non, le pasouk n'a rien à voir. D'après mina Torah, il faut être plus avoir faim. Tant que j'ai encore faim, même si j'ai mangé un kazaït, même si j'ai mangé un kabetza, si j'ai encore faim, il n'y a pas très haut de Birkat Hamazon. Donc les psukim, c'est juste Nasmarta. Donc, c'est quoi la machloket? C'est le din des Rabbanan. Et pourquoi si on regarde ça de manière différente, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, c'est un machloketam et svara, parce qu'ils ont une machloket dans la svara. Donc c'est pas un pshat dans le pasuk. Pasuk, d'après Tosfot, c'est Achila Gmura. Sviya Gmura, pardon. Il faut, tant qu'on n'est pas rassasié, on n'a pas très haut de Birkat Hamazon. Ah, il y a machloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda, c'est une asmarta, quel est le chiyuv? Mais encore une fois, c'est un dîme de Rabbanan. Allez, Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, il faut penser au présent tout de suite. La logique nous dit la chose suivante. J'ai comme chez Shinyan chez l'Achila, à chaque fois qu'il s'agit de nourriture dans la Torah, donc à chaque fois qu'on a mangé, une personne obligée de Zimoun, mais de Rabbanan au moins, au présent. Pourquoi? Étant donné que manger, c'est kazaït dans toute la Torah, quand une personne est chayav, s'il a mangé quelque chose de la source, c'est qu'il a mangé un kazaït. Donc, vachalta, c'est manger. Manger, c'est quoi? C'est un kazaït. Et donc, dès qu'on a mangé, on est obligé de faire un zimou. Parce que maintenant, j'ai un chiyuv, maintenant j'ai mangé, je suis obligé de faire un zimou. C'est ce que la Torah me dit. Par contre, après Rabbi Yehuda, il faut penser au futur. Le fait que ce que j'ai mangé, ça ne veut pas dire tout de suite que j'ai oublié de faire un zimoun. Et là, pour l'achila, ce qui est important, c'est le résultat à la fin. Le but de manger, c'est quoi? Ce n'est pas juste de manger. C'est d'être rassasié. Quand je suis rassasié, c'est à ce moment-là que j'ai l'obligation de berachta. Donc, donc il faut manger assez pour être rassasié. Donc, il y a berachta d'après Rabbi Meir qui dit c'est manger, j'ai mangé. Une fois que j'ai mangé un kazaït, j'ai un chiyuv. Okay, à partir du moment où j'ai mangé un kazaït, j'ai un chiyuv de manger. Ah, c'est marqué Vesavata. Ok, ça, c'est quelque chose d'autre. Vesavata, ça veut dire peut-être que j'ai bu. En tout cas, à partir du moment où j'ai mangé maintenant, j'ai ce chiyuv là. Donc, ça, c'est Vachalda. Et dans toute la Torah, Achila, c'est Kazé. D'après Rabbi Yehuda, on voit toujours le futur. C'est pas manger pour manger. Manger, c'est l'idée, c'est d'être rassasié. Pour ça, c'est kabetza. Kvar nidbara pamim rabot. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. Chez kasher nomotzi machloket ben tanaim. Quand on trouve une machloket entre tanaim, et nous rajoute le Rabbi Gdolim, c'est bechla bechla le Gdolim. C'est pas juste le tanaim. C'est qu'on peut. Ça va au-delà de la Mishnah. Mishnah, la Gemara même plus tard. Quand on trouve la machloket, une machloket qui se trouve, mais quand même, comme on a plusieurs endroits. Svarachat avec la même logique. On est obligé de dire Tzricha. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir ces trois machloquettes. C'est-à-dire que si, dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, ou dans la Gemara Ravina Ravashi, ils ont décidé de ramener la même machloquette plusieurs fois, ce n'est pas par hasard. C'est que chaque une des machloquettes ou chaque point où c'est marqué, il y avait une raison pour laquelle on l'a mentionné. C'est-à-dire, chaque endroit a un chidouche par rapport aux autres. Ici, c'est trois points, trois endroits. Donc, c'est que chacun des trois a quelque chose que les autres n'ont pas. Clément. Bechol makom, fnatzmo, yesh varel chalek lomar shenidon zeynon bechla machloket shishtayu, shitatayu. C'est-à-dire que à chacun des trois, par exemple, je parle de trois parce que c'est ces trois, il peut y avoir beaucoup d'autres endroits dans la chasse, mais dans chacun d'endroits, c'est qu'on aurait pu dire, ah non, ici c'est différent. Ici, c'est machloket différente. La chen, nishtana machloket shu bechol yom bechnatzmo. C'est pour ça qu'on a besoin de répéter la même machloket dans ces trois points différents, ou dans tous les autres points, quelle que soit la machloket. Parce que sinon, on aurait pu dire, ah non, ici, dans ce cas-là, c'est une exception. C'est différent. Benalonina, dans notre contexte, passons par les trois cas. Kevan, Shasiat, Shemel Amishra, Itzivu Yashem. Étant donné que l'obligation de faire cette huile, c'est un commandement de Dieu. Pour Dieu, le Fanav, Ayahoveveye, Kechad. Pour Dieu, le temps n'est que un. On a déjà le futur dans le présent. Ubifrat, Alpiat Gasha Betosefta, comme c'est marqué dans la Tosefta, Shayamim Vashaot Kechut Asar Lifnamakom. Les jours et les heures, c'est comme un cheveu, la taille d'un cheveu pour Hachem. Comme chez Piresh Bazagan Ragachov, comme le Ragachov nous a expliqué. Jésus Kenekuda, Chedek Shem Talak, c'est comme un point mathématique, qui est quelque chose qui est indivisible. C'est l'unité la plus petite qu'on ne peut plus diviser. Maintenant, c'est vrai que de notre côté, c'est vrai que pour Hachem, Hachem dépasse le temps. Hachem nous a donné les mitzvot à nous. Étant donné que maintenant, par contre, on est en train de faire les mitzvot de Hachem, c'est-à-dire, il faut faire ça en fonction de ce qu'Hachem nous a donné. C'est-à-dire, pour Hachem, passé, présent, futur, c'est la même chose. Donc, on aurait pu dire que dans le cas de Hachem et la Mishra, on ne peut pas dire, ah oui, il y a Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Yuda, est-ce que c'est le futur ou le présent? Non, non, là-bas c'est différent. Parce que là-bas, on passe le mitzvah de Hachem, passe présent, futur, c'est tout la même chose pour Hachem. Donc là, Rabbi Meir, Rabbi Yuda ne peut pas être Machloket, est-ce que c'est le présent ou le futur? Pour Dieu, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, trouver la même chose. Ok? On va faire la Hara 30. Avalidach, Efchar Lamar, de l'autre côté, on peut dire l'opposé. Que le résultat final, c'est-à-dire de l'huile pure, est en contradiction avec le commandement du présent, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit un mélange d'huile et de plantes. On aurait pu dire que peut-être que le présent ici est plus important, parce qu'on ne peut pas avoir le présent et le futur à la fois, parce que le résultat final, c'est quelque chose qui est en contradiction avec le plan. Soit on a de l'huile pure, soit on a un mélange. Au départ, on est censé faire un mélange. Donc on va dire, ok, ici c'est différent. Ou on était pas sec, comme dans le bémeir. Machen ken, besocher, vezimoun. Par contre, le cas du socher, le cas de Birkat Amazon, shaove, le présent, et nos bénégouts de latin, n'est pas une contradiction avec le futur. Peut-être que dans là, il y a marloquette. Donc en tout cas, on aurait pu dire que le cas de Shemel HaMishra, c'est une exception. Donc on a eu besoin de mentionner la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Dans le cas de Shemel HaMishra, ce n'est pas une exception. Bet. Din socher. Le din du socher, de celui qui va louer. Il n'y a aucune certitude que dans le futur, il y aura un vol ou une perte. En plus, il y a un chômeur. Attends, il n'est pas un chômeur top. Enfin, c'est un chômeur chinam, à compagnon. Au moins, il est un chômeur qui garde gratuitement. Ce n'est peut-être pas le plus grand degré, mais quand même, il y a un chômeur. Et là, Mdouba, c'est comme une inquiétude très distante. Chez l'autre, comme Shemel HaMishra, Bedin Al-Kamazon, qui n'est pas du tout une réalité comme Shemel HaMishra ou bien le Birkat Amazon. Là, il y a une certitude. Là, c'est peut-être qu'il y aura quelque chose dans le futur qui va se passer, va savoir. Là, dans le Birkat Amazon, on mange, on va être rassasié ou pas. Shemel HaMishra, on fait l'huile, on a la manière dont on doit le faire, ensuite, il y a un résultat à la fin. Alors que le chômeur, on ne pensait pas du tout. S'il y aura un problème de quelconque, il va se passer. Mais là, dans ce cas-là, on aurait pu dire, oublie le futur, va savoir ce qui va se passer dans le futur par rapport au chômeur. On va s'inquiéter maintenant, est-ce que ça va être volé? On laisse tomber. Et donc, peut-être que Rabbi Meir, Rabbi Yuda lui-même va dire, non, je ne m'inquiète pas pour le futur. C'est pour ça qu'on a besoin de mentionner le cas du chômeur aussi. Donc, on a quoi? Que dans le Shemel HaMishra, même si on aurait pu dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent pour Hachem, non, non. Il y a un passé, il y a un présent, et Rabbi Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Dans le cas du chômeur Sachar, on a pu dire, ouais, du Socher, pardon, on a pu dire, on va s'inquiéter du futur, on va savoir, il y a un chômeur, j'ai besoin de m'inquiéter que peut-être ça va être perdu, etc. Non, donc on ne s'inquiète pas du tout du futur. Il n'y a pas de Machloket, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Il y a Teral Ken, encore plus que ça. Quand il s'agit de la personne qui va louer, en fait, il y a deux choses. Le fait qu'il va louer un objet maintenant, c'est une chose. Le fait que ce sera peut-être perdu, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il le loue. On ne peut plus faire le lien avec Shemana Mishra. Qu'effectivement, il y a cette machloket, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, le futur ou le présent. La même chose pour le zimun. Là-bas, dans le zimun, c'est quoi? C'est le futur qui est le plus important. Parce que pourquoi est-ce qu'on mange maintenant? Pour plus avoir faim. Dans ce cas-là, on aurait pu dire que, d'après tout le monde, ce qui est important, c'est le maintenant. Même plus tard. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi, comment est-ce que je vais être rassasié? Je vais être rassasié parce que je vais manger maintenant. Donc c'est le maintenant qui compte. Donc, je suis pas sec qu'on suit le maintenant. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce point-là. Si on avait mentionné uniquement le din du zimun, on n'aurait pas pu faire apprendre ça sur les autres cas. Parce que là-bas, on aurait pu dire que quoi? Il s'agit de geder achila. Qu'est-ce qu'il considérait manger? Rien à voir nécessairement avec le futur et le passé. Mais là, on peut dire non, ça n'a rien à voir avec le passé ou le présent. C'est un din dans le geder de qu'est-ce qu'il considérait manger. Il m'avait marché et rien à voir avec les autres machloquettes entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, est-ce que c'est le présent ou le futur? C'est pour ça que c'est important de ramener ces trois opinions-là de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans tous les endroits, dans ces trois endroits-là, pardon, parce que sinon on n'aurait pas pu apprendre de l'un vers l'autre. Merci et bonne semaine.